RGB 12h15. Le journal Alexandre Michler.
Bonjour, un projet de fusion entre Sauges et Romont s'organise. Le sujet a été évoqué lors des assemblées citoyennes respectives des deux communes. Pourtant, l'idée d'un mariage n'avait pas abouti en 2008. Alors, est-ce désormais le bon moment? Qu'est-ce qui a changé depuis? On fait le point dans un instant. Ce week-end se déroule la fête bernoise du Yodel à la Lenque. Parmi les 3000 inscrits, il y a l'agriculteur de la Cibourg, Christian Chance. Nous l'avons rencontré et il nous dira que cette compétition est particulièrement symbolique pour lui. En sport, le tramlo, Yannick Bourquin se lance un défi hors du commun, celui de courir la Via Berna en autonomie totale en 5 jours. 300 km au programme avec pour objectif la récolte de fonds pour l'association Rêve Suisse. L'athlète nous l'expliquera. Quelques cumulus possibles, mais sinon un temps plutôt bien ensoleillé cet après-midi et ce week-end. Selon les spécialistes de Météo News, on devrait rester au sec, hormis demain après-midi où quelques orages seront probables. Côté Mercure, on attend des températures qui pourront atteindre les 33 degrés ce week-end. Un projet de fusion entre Sauges et Romont est donc à nouveau sur la table. Les autorités des deux communes ont récemment évoqué le sujet lors de leurs assemblées citoyennes respectives. On se souvient qu'en 2008, une fusion entre Perry, La Heute, Orvin, Plagne, Vauflin-Frainvilliers et Romont avait capoté. Par la suite, en 2014, Plagne et Vauflin-Frainvilliers avaient finalement fusionné, donnant naissance à la commune de Sauges, mais sans Romont. Alors, 11 ans plus tard, est-ce enfin le bon moment? Yvan Coller est le maire de la commune de Romont.
Au niveau des conseils, on a pensé que maintenant c'était le moment de fusionner. Donc les deux conseils sont effectivement intéressés par le projet. Mais c'est vraiment le début. Maintenant, on a un contrat de pourparlers. C'est vraiment le début du processus. Et puis, on va créer une commission intercommunale qui va déterminer les avantages et inconvénients. Ils vont faire un rapport. Et suite à ce rapport, on va le présenter à l'Assemblée qui va décider on continue le projet ou on abandonne. Il semble qu'on a des bons rapports avec Sauges actuellement. On collabore déjà au niveau des pompiers, des cimetières, de l'école. Et il ne manque plus beaucoup pour intégrer l'administration.
Voilà, du côté des autorités de Sauges, on constate la même envie et malgré les échecs du passé, Pierre-Alain Grosjean, maire de la commune de Sauges, se montre plutôt optimiste.
On est plus optimiste parce que les gens qui travaillent aussi dans le cadre de la commune de Romont et puis dans notre commune, donc les deux conseils, pardon, on se rencontre assez régulièrement et puis c'est presque comme si on est déjà fusionné, si on veut, dans nos têtes. Mais comme c'est le peuple qui décide, on va quand même dans l'inconnu. Mais chaque fois qu'on se rencontre, on parlait déjà d'une éventuelle fusion. Puis maintenant, on a décidé que c'était vraiment le moment de lancer le projet.
Un dossier réalisé par Régis Meria. Notez encore que la commission intercommunale créée pour discuter de la fusion comptera entre 4 et 6 personnes selon les dossiers à traiter. Une première séance aura lieu prochainement et si tout va bien, les deux communes espèrent pouvoir organiser un vote en 2027. Saint-Imier, de son côté, prépare ses arguments en vue d'une augmentation des impôts. Les autorités ont présenté hier soir au Conseil de ville le plan de communication. Un plan qui doit amener jusqu'au 30 novembre, date de la votation du budget 2026 et d'une éventuelle hausse de la quotité. Le Conseil municipal compte déployer un large éventail de mesures ces prochains mois pour atteindre différents publics. On parle d'infolettres, de conférences de presse, de séances, tables rondes et de posts sur les réseaux sociaux. À ça, le Conseil de ville a demandé d'ajouter encore d'autres actions et elles seront prises en compte, assure le maire de Saint-Imier, Corentin Jeanneret.
C'était justement le but qui soit soumis ce soir. Il aurait pu être décidé simplement par l'exécutif et gardé ou connu de l'exécutif. C'était pas le but. La démarche se voulait participative pour que chacune et chacun finalement se l'approprie, le fasse vivre et surtout l'applique et le respecte et en soit conscient. Donc évidemment que les remarques qui ont été émises ce soir, il en sera tenu compte et qu'on les reprendra le cas échéant et le moment venu dans la mise en œuvre de ce plan de communication.
Votre parti, par contre, le PLR s'est montré un peu, on va dire, hésitant quant au fait de faire passer une nouvelle augmentation d'impôts auprès de la population cette année déjà, après le refus large l'année passée. Comment vous allez faire si même le Conseil de ville, même au sein du Conseil de ville, on n'est pas unanime?
Alors, c'est encore de la musique d'avenir. On verra quelle sera la teneur des débats au Conseil de ville au mois d'octobre lors de la décision du budget. Effectivement, il y a deux points. Je pense qu'il y a la communication. De toute manière, elle doit avoir lieu puisqu'il y aura les résultats de l'audit qui seront communiqués. Et ça, quelle que soit l'issue sur le vote du budget, la population doit savoir et doit avoir accès à ces informations. Et puis, il est encore trop tôt pour parler des discussions du mois d'octobre. La commission des finances va établir un projet de budget. L'exécutif va le valider et va envoyer une proposition au législatif qui le débattra au mois d'octobre.
Voilà, Corinne Tajan, maire de Saint-Imier, avec Anthony Montandon au sujet du plan de communication que vont déployer les autorités pour convaincre les citoyens donc d'accepter une éventuelle hausse des impôts. Et dans les autres sujets de la soirée, les élus ont aussi accepté les comptes 2024 de la municipalité. Ils ont aussi dit oui à la remise d'un don de 5 000 francs en faveur de la commune de Blatten. Et puis la Neuville et Sonsbon, eux aussi, se mobilisent pour Blatten. Le conseil municipal de la cité médiévale a décidé de verser un montant d'environ 3 800 francs. À Sonsbon, les autorités ont accepté de verser 1 franc par habitant, soit plus de 1 900 francs. Enfin, notez que c'était également l'Assemblée communale à Crémines hier soir. Tous les points à l'ordre du jour ont été acceptés, à l'exception du budget 2025 du syndicat scolaire élargi du Grand Val. Un point qui a en revanche été accepté hier soir également à Roche, tout comme les comptes 2024. À Bienne, vous les avez peut-être aperçus. Ils se baladent depuis quelques mois dans le secteur de la gare ou dans le quartier de Bougeant. Plusieurs personnes ont signalé la présence de rats auprès des autorités biennoises. Manon Becker a mené l'enquête.
Les rongeurs proviendraient d'immeubles privés. Selon la ville, dans ce genre de cas, c'est d'abord aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires et d'appeler des dératiseurs. Pour Cyril Mühlenstein, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les rongeurs font partie de la vie urbaine. Aucun problème grave n'a été signalé ces derniers mois ou années. Selon le responsable de la voirie, il suffit juste d'un sac poubelle laissé hors du conteneur ou de fuites de canalisation pour les attirer. Il rappelle les consignes à suivre.
Important, c'est que les ordures ne soient pas jetés dans la rue, c'est que vraiment le matin, avant 7h, les mettre en place pour qu'on puisse venir les chercher. Dès qu'on donne des aliments ou quelque chose, c'est là qu'ils vont se servir et puis déchirer les poubelles.
Avec le réchauffement climatique, les rats deviennent toujours plus nombreux dans les villes. C'est ce qu'indique une étude de l'université de Richmond aux États-Unis publiée dans un article de la RTS en début d'année. Selon l'étude, la présence d'îlots de chaleur amène des conditions plus favorables à la reproduction des rongeurs. À Bienne, si la situation venait à s'aggraver et que les privés ne réagissaient pas, la ville devrait intervenir. Cyril Mühlenstein.
Il faut voir la situation sur place, voir si on peut faire quelque chose. Par exemple, à la Hans-Hugi-Strasse, on a mis des containers pour justement que les gens puissent mettre leurs poubelles directement là-dedans. Comme ça, ça ne traîne pas par terre. Et puis les rats ne vont pas se servir là.
Pour lutter contre la prolifération de rats, une solution sera alors de végétaliser les villes, conclut l'étude de l'université américaine.
Un accident de la circulation s'est produit ce matin dans le tunnel du Buttenberg sur l'autoroute A5 en direction de Bienne-Est. Une voiture et une camionnette sont entrées en collision pour une raison encore indéterminée selon les informations communiquées à jour par la police bernoise. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés. Le canton de Berne a remis aujourd'hui à la Confédération les projets de développement des agglomérations de la 5e génération pour évaluation et cofinancement. Ces projets totalisent 306 mesures pour un volume d'investissement d'environ 1,13 milliard de francs. La moitié de ces mesures encourage la mobilité piétonne et le trafic cycliste. Dans le domaine des transports publics, 5 agglomérations prévoient de passer aux bus électriques, dont celle de Bienne-Lys. Pour cette dernière, justement, 39 mesures sont au programme pour un coût de 186 millions de francs. Parmi elles, on retiendra notamment le réaménagement de la place de la gare à Bienne. Le résultat de l'évaluation de ces projets est attendu au printemps 2027. La compétition sera rude ce week-end à la Lenk. Les clubs de yodel de tout le canton de Berne vont s'affronter dès ce soir et jusqu'à dimanche dans le cadre de la fête bernoise du yodel. Parmi les 3000 inscrits, il y a Christian Chans, agriculteur à la Cibourg, aussi membre de l'Éco des montagnes de Montsoleil. Il tentera de se qualifier ce soir pour la finale 2026 à Bâle grâce à son tout premier solo. Si ce n'est pas la première fois qu'il participe à un tel événement, jamais il n'a été autant symbolique pour lui. Christian Chans.
Je dois écouter le yodel, mes parents sont agriculteurs assez traditionnels. Et puis après, j'ai découvert le yodel club Éco des Montagnes à Montsoleil, à qui je dois quand même énormément de choses, notamment la rencontre de mon épouse, la rencontre du propriétaire de la ferme que je loue, et mon beau-papa qui n'est plus là, qui m'a inculqué des valeurs très très importantes que je cultive aujourd'hui.
Et puis comment vous vous êtes préparé à cette fête et puis au solo de ce soir ?
Concernant le solo, j'ai pris des cours particuliers. J'ai été une fois par mois me présenter et puis apprendre ce chant et puis développer ma voix. Et puis c'est clairement ça aussi que j'ai vu, c'est que ma voix s'est pas mal développée avec le temps.
Est-ce qu'on ose vous demander peut-être un petit morceau de yodel ?
Je vais essayer.
Voilà, des propos recueillis par Violette Ferreira lors de son solo. Christian Chan sera accompagné à la Schwitzoise par son cousin Marc. Leur prestation a lieu ce soir, donc à 20h50. Les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Mühlenberg avancent comme prévu. Le chantier doit durer 11 ans et arrive aujourd'hui à mi-parcours. La centrale a été arrêtée le 20 décembre 2019. La décision de fermeture a été prise pour des raisons économiques. Mühlenberg est ainsi devenue la première centrale nucléaire suisse à stopper son activité. Un point sur la situation avec Émilie Charmillot.
Sur les 13 000 tonnes de structures métalliques, 6 700 ont déjà quitté la centrale, indique le chef de la désaffectation. Même après plus de 5 ans de démantèlement, l'extérieur de la centrale reste inchangé, mais c'est à l'intérieur que les travaux sont clairement visibles où de nombreuses installations ont disparu. L'étape la plus importante jusqu'à présent a été le retrait complet de tous les éléments combustibles du réacteur. Ces composants sont triés et nettoyés des résidus radioactifs. Si le rayonnement mesure est inférieure aux valeurs limites fixées par la loi, ils peuvent alors quitter la centrale. Ces restes finissent chez des ferrailleurs ou dans des décharges. De leur côté, les matières fortement radioactives sont acheminées vers le centre de stockage intermédiaire de Würenlingen dans le canton d'Argovie. Elles ne représentent qu'environ 1,5 à 2 % des matériaux démontés.
Voilà, d'ici à fin 2030, la centrale devrait être exempte de matériaux radioactifs. Après un contrôle par les autorités, le démantèlement conventionnel pourra suivre en 2031 et les bâtiments devenus inutiles seront alors démolis. Ce sont les Suisses, au début de l'année prochaine, qui décideront si l'imposition individuelle des couples mariés doit être introduite partout en Suisse et pour tous les impôts fédéraux, cantonaux, communaux. Ce matin, au dernier jour de sa session d'été, le Parlement fédéral a validé ce principe par 22 voix contre 21 au Conseil des États et 101 voix contre 93 au Conseil national. Et puis l'abbaye de Saint-Maurice en Valais a failli dans la gestion des abus sexuels qu'elle a abrités au cours des dernières décennies. Chargée de faire la lumière sur ce passé, un groupe de travail indépendant a constaté des dysfonctionnements importants. Ce groupe dirigé par le procureur général neuchâtelois Pierre Aubert a publié ce matin son rapport et il a listé un nombre non négligeable d'actes de violence sexuelle en tout genre. Un décompte a permis d'identifier au moins 68 victimes et 30 auteurs d'abus. On reviendra plus en détail sur ce rapport dans notre journal de 18h.
12h28 sur RJB, Alexandre Michler. Prenons nos jambes à notre cou.
RJB Sport.
Yannick Bourquin se lance un défi hors du commun. L'ultra-trailer de Tramelan veut courir la Via Berna en autonomie totale en l'espace de 5 jours. Ce chemin de randonnée qui traverse le canton de Berne de Belley au corps du Susten se compose de 300 km avec plus de 12 300 mètres de dénivelé et se parcourt habituellement en 20 étapes. Yannick Bourquin entend aussi récolter des fonds pour l'association Rêve Suisse. Après avoir déjà bouclé plusieurs ultra-trails de plus de 160 km, comme celui du Mont Blanc notamment, l'athlète de 44 ans avait envie d'un challenge différent. Yannick Bourquin.
J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel et sans dossard pour une fois. J'ai fait pas mal d'ultra avec des dossards, avec beaucoup de participants. Et là, j'avais envie de faire un peu quelque chose de différent et voilà, un peu plus orienté aventure.
Comment est née cette idée ?
Alors justement, après un ultra trail, la Swiss Peaks, l'année dernière, en automne, 170 km. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Mathieu Blanchard qui faisait la traversée du GR20 en Corse en autonomie complète. Et voilà, l'idée a mûri jusqu'à cette idée de la Via Bernaventure. Le but de cette aventure, c'est avant tout de faire parler de l'association Rêve Suisse. C'est aussi ce que je cherchais, c'est faire quelque chose qui dépasse simplement ma petite personne. Donc, l'idée, c'est de récolter des dons et donner de la visibilité à cette association via ce défi.
Des propos recueillis par Émilie Mumenthaler. L'ultra trailer de Tramelan s'élancera sur la Via Berna dimanche depuis Bellay avec l'objectif d'arriver jeudi prochain au col du Susten après donc 300 km d'effort. Et vous retrouvez tous les détails sur son action en faveur de l'association Rêve Suisse sur notre site internet. Enfin, hockey sur glace, sachez que Langnau perd un élément important de sa légion étrangère. Le club emmentalois de National League et Alexis Sarella résilie avec effet immédiat un contrat valable encore 2 ans. Le Finlandais devra en effet effectuer son service militaire obligatoire d'au moins 6 mois à partir du mois de juillet, selon une annonce faite ce matin. L'attaquant a terminé 2 des 4 saisons qu'il a passées sous le maillot des Tigers avec le maillot du top scorer. 12h31 sur RJB, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi avec nous. Excellent après-midi. RJB Sport.